et bienvenue à cette émission spéciale. Ici Simon Dominé, directeur de l'information à CAGAFM. J'ai le plaisir d'animer ce débat radiophonique dans le cadre des élections fédérales 2025. Au cours de cette émission spéciale d'une heure consacrée aux enjeux de la circonscription fédérale de Pontiac-Itigan-Zibi, quatre thèmes seront abordés. La relation avec les États-Unis et le développement économique, le coût de la vie, l'équité interrégionale et les Premières Nations. L'invitation a été lancée aux partis qui comptaient au moins un représentant à la Chambre des communes du Canada quand les élections ont été déclenchées. Sont présents avec moi ce soir dans nos studios à Maniwaki, la candidate du Parti libéral du Canada et députée sortante de Pontiac-Kitigan-Zibi, Sophie Châtel, le candidat du Parti conservateur du Canada, Brian Nolan, le candidat du nouveau Parti démocratique, Gilbert Wyduck, et le candidat du Parti vert du Canada, Claude Bertrand. La candidate du Bloc québécois, Suzanne Proulx, a reçu l'invitation, mais elle nous a répondu après l'échéance qu'on lui avait fixée pour confirmer sa participation au débat. Je rappelle aussi que le Parti populaire du Canada présente un candidat dans Pontiac-Kitigan-Zibi. Il s'agit de Todd Hoffman. L'émission se déroulera comme suit. Chaque candidat aura d'abord 2 minutes pour se présenter. Par la suite, des questions seront adressées aux candidats à tour de rôle en fonction des thèmes retenus. Ils auront chacun 1 minute pour répondre. Après les questions, une période de débat entre candidats suivra. Chaque candidat pourra poser 2 questions à la personne de son choix, qui aura 1 minute pour répondre. L'ordre de réponse a été déterminé par tirage au sort. Bon débat. Et Madame Châtel, le hasard vous a désigné, c'est à vous de commencer les présentations. Allez-y, vous avez 2 minutes.
Bonjour et merci Simon, et merci pour cette belle invitation. CAGA, c'est tellement une radio importante pour nos communautés, donc ça me fait très plaisir d'être ici. Écoutez, en cette élection fédérale, les enjeux n'ont jamais été plus élevés. Devant les menaces économiques et à notre souveraineté des États-Unis, la question que se posent les Canadiens, c'est en qui pouvons-nous avoir confiance pour unir notre pays et nous guider dans ces moments décisifs? Nous avons besoin d'un leader qui est sérieux, qui a la vision, qui a l'expérience économique et un plan pour protéger notre économie et nos travailleurs et bâtir une économie forte. Moi, je crois en Mark Carney. Je crois aussi en notre région. Nous avons un potentiel dans 3 grands secteurs et je ne veux pas manquer cette opportunité de bâtir aux côtés d'un homme sérieux, ambitieux et expérimenté. On va éliminer les barrières au commerce interprovincial. Alors, nos entreprises, par exemple celles en agroalimentaire, pourront vendre sur le marché ontarien juste à côté de chez nous. Deuxièmement, Mark Carney veut mettre en place un grand chantier de construction de maisons abordables avec le bois de chez nous et payer la formation des gens qui veulent apprendre les métiers et la construction. Troisièmement, le secteur récréo-touristique est en plein essor dans notre belle région, dans la vallée de la Gatineau, et nous avons déjà investi beaucoup, mais il faut doubler les efforts pour contrer ces temps économiques turbulents. Il est temps de bâtir ensemble.
Merci Madame Châtel. On va passer à Monsieur Gilbert Wyduck, le candidat pour le nouveau Parti démocratique. Monsieur Wyduck, je vous en prie, vous avez 2 minutes vous aussi.
Oui, Kakina, Gilbert Wyduck, et Nijakas Kitigan-Zibi Ndonjiba. Alors, mon nom, c'est Gilbert Wyduck. Je suis de la communauté de Kitigan-Zibi. Je suis algonquin, Anishinaabe. Et puis, ce soir, je veux vraiment débuter en partageant directement avec les écouteurs que je suis une personne, je vais parler de moi. Je suis quelqu'un de la Haute-Gatineau qui a grandi justement dans la région de Maniwaki, qui a gradué de la polyvalente. On était très peu de notre communauté qui ont eu la possibilité de graduer. J'ai joué tout mon hockey élite ici à Maniwaki, le football et tout ça. J'ai fait beaucoup de liens à Haute-Gatineau. J'ai beaucoup appris. Et puis, je me présente pour le Parti Nouveau, le Parti démocrate, parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter. Quelque chose de différent. J'en parle souvent. Je veux être une personne plus civile, plus à l'écoute. Et puis ça ne veut pas dire que les autres candidats ne sont pas à l'écoute. mais je pense que je peux apporter quelque chose qui est unique. Je comprends très bien le grand défi qu'on a avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'est-ce qui se passe présentement ici. Oui, il va y avoir des impacts. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'il y a des négociations, parce qu'il va en avoir, il faut s'assurer qu'il y ait des choses qui se font et se font rapidement. Puis on pourrait parler longuement de logement, de formation, de l'aide aux fermiers, aux fermières, de développement économique et tout ça. Et des programmes fédéraux, souvent, qui ne répondent pas aux besoins des municipalités. J'ai eu la chance de jaser avec la préfète, avec certains maires, pour voir quels sont leurs défis. Alors, je vois mieux maintenant qu'il y a beaucoup de travail à faire à Ottawa, puis je veux être la voix de la population, la voix de tout le monde, des travailleurs et des travailleuses. Minkwatch.
Merci, M. Wydock. M. Nolan, c'est à vous, candidat pour le Parti conservateur du Canada. 2 minutes également pour vous présenter.
Merci. Merci beaucoup pour nous avoir invités à cette soirée. Très appréciée. La région ici de la Haute-Gatineau est très importante pour moi. J'ai passé beaucoup de temps lorsque j'ai été président de l'Association d'hockey mineur des collines pendant 12 ans. On est souvent à Maniwaki. Et même partout, même jusqu'à Fort-Coulonge. Alors, je connais très bien la région. Personnellement, moi, je suis originaire de Québec. J'ai déménagé dans la région de l'Outaouais il y a environ 40 ans. Ça fait 33 ans que je demeure à HRC. Je suis marié. J'ai 2 filles qui sont membres de la GRC, les deux dans l'Ouest canadien. J'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant 25 ans. Je suis gradué en informatique. J'ai eu ma compagnie de consultant pendant 15 ans. Et plus, comme je mentionnais, le hockey mineur, c'est une chose qui me tenait à cœur également. Mais là, j'ai décidé de me lancer en politique afin de faire un gros changement. Après 10 ans de gouvernement libéral que je voyais les dépenses inutiles et exagérées, je trouvais que ça n'avait plus de bon sens, que le pays s'en allait à la banqueroute, à la banqueroute. Et puis, ça prenait un gros changement. Alors, on regarde le coût de l'épicerie, le coût des loyers, le coût des maisons, les maisons que nos jeunes, une génération au complet, on parle des personnes au moins jusqu'à 40 ans qui peuvent même plus se permettre une maison à cause de toutes les dépenses excessives qui s'est passées durant les 10 dernières années. Et puis ça, c'est inacceptable. Il faut ramener le gros bon sens à Ottawa. Et puis, travailler aussi avec la communauté. Moi, je suis une personne qui aime le contact avec le monde. J'aime discuter. Puis je suis une personne d'action qui est très, très importante. Puis je crois qu'en ce moment, dans la situation dans laquelle on se trouve, M. Poilievre, il y a le meilleur programme. Et puis, il y a l'expérience de tous les politiques afin d'amener un bon ordre au gouvernement à Ottawa. Alors, merci.
Merci, M. Nolan. Ça va être au tour maintenant de M. Claude Bertrand, représentant du Parti vert. À vous la parole.
Merci, M. Naminé. Bien heureux d'être ici dans vos studios de CHGA. Qu'est-ce que je peux vous dire à mon sujet? J'ai 68 ans, père, grand-père de 2 adorables petites filles. J'ai été élevé au lac Saint-Jean pendant plusieurs années. Puis j'ai étudié à Montréal en anglais parce que je voulais apprendre l'anglais. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu 2 belles carrières. Une, j'ai travaillé comme 16 ans comme ingénieur. Puis ensuite, j'avais le désir d'être pilote d'avion. Puis alors, je me suis joint aux forces canadiennes. Puis je suis devenu pilote d'avion en réaction, instructeur, pilote sur hélicoptère. J'ai passé un tour d'Afghanistan de 9 mois. Ça, c'est à mon sujet. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui, juste avant qu'on ait vraiment le débat comme tel, là, de ce qui s'est passé un peu hier, durant le débat des chefs. On a vu que le chef du Parti vert n'a pas pu participer. Il y avait, sans vraiment faire l'analyse de comment ça s'est arrivé, on voit que quand le chef ne peut pas participer à un débat, les gens regardent moins, les médias le suivent moins, on est moins cité dans les médias, on a moins de gens qui contribuent à faire des dons vers le parti. C'est vraiment c'est la disparition d'un parti que l'on voit. Je ne prédis pas que le vert va disparaître, j'espère que non. Mais c'est un peu le résultat du système électoral que nous avons. Un système électoral qui ne favorise pas les petits partis, il favorise strictement les 2 plus gros partis. On le voit aux États-Unis. Le first past the post, ou le système uninominal à un tour, a cet effet-là de toujours supporter les gros partis. Madame Châtel a eu la chance de voter pour une assemblée citoyenne en 2023, mais malheureusement, elle a choisi de ne pas le faire. C'était M. Maurice du Grand Parti Vert qui avait avancé le projet Bill 86. Merci, monsieur.
Alors, je vous remercie. Je vous remercie pour cette période de présentation. On va passer aux grands thèmes, aux quatre thèmes qu'on a choisis, aux questions qui vont avec. Alors, je vais commencer avec le premier thème. Le premier thème qui a été retenu est la relation avec les États-Unis et le développement économique. Alors, je vais vous faire une mise en contexte avant de poser ma question. L'industrie forestière et l'agriculture sont des piliers économiques de la vallée de la Gatineau. Dans le contexte de la dégradation des relations avec les États-Unis, l'usine de Domtar à Maniwaki est fermée pour une durée indéterminée depuis décembre et les Américains ont la gestion de l'offre dans leur mire. Ma question, comment allez-vous aider les entreprises locales à surmonter cette crise? Monsieur Wyduck, le sort vous a désigné pour répondre en premier. Je vous écoute, vous avez une minute.
Bien, pour moi, la première chose la plus importante, c'est d'aider non pas directement la compagnie, mais d'aider les travailleurs, les travailleuses. Pour moi, c'est important. De là, d'avoir des programmes, il y a des programmes d'assurance emploi qui devraient être bonifiés, très important, parce qu'au niveau qu'ils sont maintenant, c'est très difficile pour les gens de vraiment s'occuper de leur famille. Ça, c'est une chose. C'est sûr que ce qui va être vraiment important à travers tout ça vont être les négociations qui s'en viennent. Vraiment, parce qu'on connaît souvent que ces compagnies-là appartiennent aux Américains aussi, qui sont toujours prêts à partir. Il faut qu'on se donne des compagnies qui sont faites au Canada, pour le Canada, au Québec en particulier, et tout en protégeant nos forêts. Il ne faut pas oublier que le côté de protection de notre environnement va main à main avec l'utilisation de ce bois-là d'une bonne façon.
Merci, merci Monsieur White Duck. Écoutez, vous avez fait ça en moins d'une minute. Je vous félicite. C'est pas toujours évident de répondre dans le temps imparti. Madame Châtel, c'est à vous de répondre. Je vous repose la question. Comment allez-vous aider les entreprises locales à surmonter la crise actuelle?
Oui, on va pas se le cacher, Simon. Ça va être difficile. Trump est déterminé à bouleverser l'économie canadienne, mais aussi mondiale, puis ça va faire mal. Mais on est prêt à réagir. Premièrement, on doit se tenir debout. On a déjà ciblé des contre-tarifs qui vont porter vraiment directement sur les industries clés américaines. Et ça va nous mettre dans une position de force pour négocier avec les Américains une entente commerciale globale. J'ai parlé à Domtar il y a quelques semaines. On s'est entendu pour que l'industrie forestière soit comprise dans l'entente globale. La gestion de l'offre, c'est hors de la table de négociation. On a été très clair là-dessus. Deuxièmement, on doit protéger nos travailleurs, nos entreprises. On a déjà annoncé des mesures concrètes. Mais troisièmement, bâtir plus de logements avec le bois de chez nous.
Une minute pile, bravo, bravo. Monsieur Bertrand, à votre tour, je vous en prie.
Alors, les tarifs de M. Trump, qui a besoin d'attention tout le temps, il faut toujours qu'on parle de lui. Alors, ces tarifs vont avoir de l'impact aux produits sortant d'ici. Donc, à la frontière américaine, leurs prix vont augmenter. Alors, ça va les rendre moins compétitifs. Les choses que l'on apporte des États-Unis, par exemple, soit des morceaux de camions, de l'équipement, des produits chimiques, ces choses-là vont nous coûter plus cher également. Alors, ça va frapper les producteurs agricoles, les producteurs de l'industrie du bois, les camionneurs, tout le monde qui travaille dans le Pontiac, mais peut-être pas la même ampleur que ce qu'on verrait, par exemple, à Windsor ou à Oshawa, par exemple, ou au Lac-Saint-Jean, là où on fait l'aluminium. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir soutenir l'économie durant ce temps-là? C'est le temps de dépenser de l'argent pour faire des infrastructures. On veut améliorer les routes, mais moi, je suis aussi d'avis qu'on a été un peu hâtif à enlever le rail qui existait ici entre Maniwaki et Gatineau, puis le rail qu'il y avait entre Fort-Saint-Jean. Est-ce qu'on peut espérer peut-être avoir un rail qui revient?
Parce que c'est une façon efficace. Tout le temps qu'on avait, monsieur Bertrand. Merci pour votre réponse. Je me tourne maintenant vers Brian Nolan. À vous, M. Nolan, vous avez une minute aussi pour répondre à la question.
D'accord. C'est sûr que Trump est imprévisible. Alors, une journée, on pense à quelque chose, l'autre journée, il pense à d'autres choses, mais il faut réellement penser aux Canadiens ici. Alors, les compagnies qui sont affectées par le tarif, on va les rémunérer, on va leur donner le manque à gagner, afin de les aider à passer à travers cette étape-là. Mais ce qui est très important dans la région, c'est qu'il faut transformer notre produit, notre ressource naturelle ici, au Canada. Il faut plus se fier aux États-Unis, il faut se trouver des nouveaux marchés, que ce soit américain ou à l'étranger, mais il faut transformer nos produits, c'est-à-dire transformation secondaire et tertiaire, pour créer de l'emploi. Moi, j'ai rencontré plein de monde qui s'exilait ou s'en allait à Val-d'Or, dans le territoire du Nord-Ouest, afin de travailler parce qu'il n'y a plus d'ouvrage ici. Alors, ça, il faut que ça arrête. Il faut réellement créer de l'ouvrage localement afin de garder des bons emplois. Essayer de créer des bons emplois, puis, pour, en fin de compte, aussi garder le monde ici dans la région qui va faire promouvoir, en fin de compte, l'économie locale.
Parfait, merci. Merci, M. Nolan. Merci à vous tous pour votre réponse à cette première question. J'ai une deuxième question, toujours sur le thème de la relation avec les États-Unis et le développement économique. Donc, la redéfinition des liens avec les États-Unis oblige le Canada à diversifier son économie. Quel secteur de la vallée de la Gatineau soutiendrez-vous dans ce contexte et comment? Alors, M. Wydeck, c'est à vous la parole.
C'est sûr qu'encore une fois, il y a beaucoup de niveaux à travers tout ça. Mais le soutien, pour moi, aux fermiers, au développement des fermes, l'agriculture est très, très important. Les petites entreprises de fermes sont importantes. Et puis, il y a le côté de la foresterie. Mais quand on parle de foresterie, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Et puis, il faut se rappeler qu'on est sur un territoire non cédé de la nation algonquienne. Et puis, que ça va prendre des négociations, des discussions avec les Anishinaabe pour s'assurer que tout se fait bien. Il peut avoir des liens importants, mais il faut avoir un dialogue ouvert et d'honnêteté qui n'a pas toujours existé, qui n'existe pas dans beaucoup de domaines. Alors, ça va être très, très important. Alors, c'est d'avoir cette ouverture-là que je crois que les Algonquins ont, mais de pouvoir s'asseoir à la table pour trouver des solutions.
Parfait. Merci, M. Wydeck. Je me tourne maintenant vers Claude Bertrand. Je rappelle la question. Dans le contexte du fait que le Canada doit diversifier son économie, quel secteur de la vallée de la Gatineau vous allez soutenir et comment?
C'est pas facile de partir un nouveau, nouvelle souche de revenus, un nouveau domaine d'activité économique. On pourrait, par exemple, remettre de l'essor dans le tourisme en essayant d'attirer des Américains ici, entre autres, ceux que nous ne voulons pas vraiment visiter. Alors, eux, on espérait bien qu'ils viennent nous voir. Et le tourisme interprovincial est également une bonne opportunité. Les produits du terroir sont les produits qu'on peut exporter vers les États-Unis et vers les autres provinces, certainement. Et j'en reviens aux maisons préfabriquées. On a le personnel, on a la main-d'œuvre ici, on a l'expertise, on a le produit pour fabriquer des maisons préfabriquées qu'on pourrait exporter aux États-Unis parce qu'ils ont aussi besoin de logements, tout comme les autres provinces autour de nous. Alors ça, c'est une autre opportunité pour nous.
Parfait, parfait. Merci, M. Bertrand. M. Nolan, je rappelle la question dans le contexte de la diversification de l'économie du Canada. Quel secteur de la vallée de la Gatineau allez-vous soutenir et comment?
Oui, la chance qu'on a dans la vallée de la Gatineau, c'est qu'on est on a des secteurs d'une région où c'est riche. On est riche en foresterie, riche en agriculture. On est riche en mines également. On pourrait développer des mines. Alors, c'est de regarder toutes les options afin de pouvoir créer de l'emploi soutenable et qui paye bien. C'est sûr que dans notre plan aussi, on veut construire des maisons. Tous ces secteurs-là, en fin de compte, qui vont promouvoir l'économie locale, ce qui est très important, parce qu'il faut arrêter de dépendre des États-Unis. Il faut enlever les barrières tarifaires qu'on a entre provinces également, parce que ça nous empêche de croître. Alors, c'est très important pour nous. Parce que ce qui arrive, c'est que pendant 10 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Les industries ont été laissées à elles-mêmes. Même on savait que M. Trump s'en venait il y a 2 ans, et puis il n'y a rien qui a été fait. Puis là, on le voit aujourd'hui, Trump est là, il a mis ses tarifs, puis là, c'est nous qui en paie le prix. Fait qu'il faut que ça change, il faut réellement créer une économie locale forte, et puis promouvoir, en fin de compte, les bons emplois, puis faire grossir les économies locales.
Merci pour votre réponse, M. Nolan. Madame Châtel, c'est à vous de conclure ce thème-là de la relation avec les États-Unis et le développement économique. Je vous écoute.
Oui, il faut diversifier notre économie. On a trop longtemps été dépendants sur les États-Unis. Moi, je vois 3 grands secteurs très prometteurs. On en a parlé, mais le secteur agricole et la transformation des aliments ici chez nous, avec un marché ontarien qui s'ouvre à nous, avec les barrières au commerce interprovincial qui se lèvent, ça crée des grandes opportunités. Mais aussi, on vient d'annoncer un fonds pour aider les entreprises agricoles à exporter en Europe et en Asie. Le deuxième, c'est un grand chantier de construction comme on n'a jamais vu de logements abordables avec le bois de chez nous. J'ai parlé justement à Domtar, c'est un secteur qui pourrait vraiment aider nos entreprises. Et finalement, les Canadiens ne voyagent plus aux États-Unis ou presque plus. Alors le secteur récréotouriste dans la vallée de la Gatineau, c'est très prometteur.
Merci. Merci à tous les quatre. On va passer au prochain thème de ce débat, le coût de la vie. Alors, depuis la crise de la COVID-19, le coût de la vie a explosé au Canada. Que l'on parle de logement ou d'épicerie, tout coûte cher. En parallèle, aucun budget équilibré n'a été déposé à Ottawa depuis 2015 et le déficit anticipé à Québec, cette fois, en 2025-2026, est de près de 14 milliards de dollars. Ma question, dans ce contexte, parviendrez-vous à aider les contribuables à se sortir de l'anxiété financière sans les endetter collectivement davantage? La parole est à vous, M. Bertrand.
Au Parti vert, on préconise donner un salaire minimum garanti. C'est quelque chose qui a été fait dans d'autres juridictions, pas ici au Canada, peut-être une ville, je pense, je me souviens pas du nom, là, mais à travers le monde, ça s'est déjà fait, puis c'est des bons résultats. Je sais qu'en Finlande, c'est un exemple que je peux donner, ils ont une politique de housing first. Alors, lorsqu'il y a des problèmes à résoudre dans la société, soit des problèmes de dépendance ou autre, ils ne peuvent pas régler ces problèmes à moins que les gens soient proprement qu'ils habitent quelque part. Alors, nous, le salaire minimum garanti, c'est vraiment la meilleure source de sortie pour aider les gens dans l'immédiat.
Parfait, merci M. Nolan. M. Bertrand. Je me tourne maintenant vers M. Nolan. Excusez-moi, M. Nolan, du Parti conservateur du Canada. C'est à votre tour de répondre. Je vous écoute.
Oui, comme on sait, le prix des maisons a doublé, le loyer a doublé, le prix de l'épicerie s'est rendu très, très cher. Il y a beaucoup plus de sans-abri qu'on avait avant. Les banques alimentaires sont vides d'aliments, mais plein de monde. Alors, ça prend un... faut arrêter ça. Nous, le Parti conservateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer les taxes de chauffage pour le chauffage résidentiel afin de réduire l'inflation. On va réduire les impôts de 15 % pour la classe moyenne. Pour les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, le premier 34 000 $ sera exempt d'impôts. Alors ça, c'est des choses qui vont aider la population à être capable de sauver de l'argent. Et puis, bien sûr, comme tout le monde le sait, il n'y aura plus de taxes de carbone, que ce soit consommateur ou industriel. On l'abolit totalement. On sait que le Québec est moins affecté, mais à travers le Canada, parce qu'on achète beaucoup de produits qui viennent de l'Ontario ou partout au Canada, qui nous affectent indirectement, mais on paye le coût. Alors ça va être aboli également.
Parfait, merci. Madame Châtel, dans le contexte de l'explosion du coût de la vie, parviendrez-vous à aider les contribuables à sortir de l'anxiété financière sans les endetter collectivement davantage?
Oui, absolument. Le coût de la vie, c'est bien sûr une préoccupation pour les Canadiens, les gens de la vallée, des jeunes familles qui ont de la misère d'acheter leur première maison ou même de se loger, et aux aînés qui méritent de prendre une retraite dans la dignité. Mais c'est vrai qu'on doit équilibrer notre budget des opérations et on s'est engagé à le faire d'ici 3 ans. Il faut quand même souligner que le Canada est chanceux. On a le meilleur ratio dette-PIB de tous les pays du G7. Et puis, on a une cote de crédit triple A. Donc, contrairement au Québec qui s'est vu diminuer sa cote de crédit. Donc, on est en santé financière, mais il faut vraiment être davantage... équilibrer notre budget d'ici 3 ans et c'est ce qu'on s'est engagé de faire. On a plusieurs mesures pour aider les Canadiens aussi, mais en premier, c'était de contrôler l'inflation.
Merci. Merci. Monsieur Wydock, c'est à votre tour.
Oui, je vais débuter en disant que pour moi, il va être important de bien gérer les finances publiques, mais pas aux dépens, en même temps, de la population. Alors, il va falloir trouver un équilibre. Et puis, c'est sûr que tous les coûts de la vie ont augmenté. Et puis, il y a beaucoup, que ce soit personnes âgées, plus jeunes, plein de gens qui ont des difficultés de pouvoir acheter les épiceries qu'ils ont besoin pour nourrir leurs enfants, leur famille et tout ça. Et puis, je sais que le Nouveau Parti démocratique a mentionné qu'il allait... avancer l'idée de mettre des plafonds sur des prix, sur des produits, et puis s'assurer aussi que les grandes compagnies qui mettent ces prix-là remettent beaucoup plus à la population.
Merci, M. Wydock. On passe au troisième thème, l'équité interrégionale. Sur les 104 municipalités régionales de comté, les MRC, au Québec, celle de la vallée de la Gatineau se classe au 95e rang au niveau de l'indice de vitalité économique. Donc je répète, 95e rang sur 104. Cela signifie que cette MRC, qui est pourtant aux portes de la capitale nationale canadienne, accuse du retard en termes de vitalité économique par rapport au reste du Québec. Ma question, quels sont les programmes fédéraux qui pourraient l'aider à se développer? Et comment vous assurerez-vous que la région aille chercher à Ottawa chaque dollar qui lui revient. Monsieur Bertrand, la parole est à vous.
On retourne à l'idée de prendre des fonds gouvernementaux, que ce soit fédéraux, provinciaux ou municipaux, puis aider des industries à venir s'établir. Alors, il y a un, attirer des industries. Deux, partir ou redémarrer des industries qui avaient déjà existé ici, pour lesquelles il y a encore une demande. On parle de l'industrie du bois, encore une fois. On parle de l'agriculture qui pourrait être améliorée dans sa viabilité économique. Il y a plusieurs choses parallèles qu'il faut faire. Il faut aider le monde. Par exemple, dans le terme de services de santé, c'est la région la vallée de la Gatineau a de la difficulté comparée à d'autres régions du Québec. Alors, il faut, encore une fois, attirer des gens qui vont vouloir venir travailler ici dans le domaine de la santé. Pour ne pas parler je m'arrête ici pour le moment. Oui.
Parfait, je vous remercie. Monsieur Nolan, je me tourne vers vous. Quels sont les programmes fédéraux qui pourraient aider la vallée de la Gatineau à se développer et comment vous assurerez-vous que la région aille chercher à Ottawa chaque dollar qui lui revient?
Moi, ce que je trouve réellement déplorable, c'est qu'il y a eu... ça, c'est pas juste la vallée de la Gatineau, il y a aussi dans le Pontiac, qui sont deux MRC qui sont très appauvris. Il n'y a aucun investissement qui a été fait là depuis longue date. Et c'est inacceptable. Les personnes qui sont là, ils sont fiers de rester dans cette région. Et puis, ils veulent travailler fort, ils veulent rester ici, mais il n'y a aucun effort qui a été fait. Moi, ça fait 4 mois que je fais du porte-à-porte, puis je parle à tout le monde. Et puis, le monde me dit qu'ils veulent de l'ouvrage, ils veulent créer de l'emploi, puis ils veulent rester ici. Nous, ce qu'on propose ici, c'est que ça prenne une infrastructure qui va accueillir les industries à demeurer ici. Un exemple, élargir la 105. Même chose avec l'Internet haute vitesse partout. Le cellulaire, c'est l'enfer. Si on perd le signal à toutes les 2 minutes. Alors, ça prend des infrastructures qui sont viables pour le monde afin d'être capable d'amener l'industrie ici pour créer des emplois afin que le monde demeure ici également. Alors, côté infrastructure, on a un gros investissement à faire et en même temps, ça aiderait...
Merci, M. Nolan. C'était tout le temps qu'on avait, je m'excuse, mais le temps file. Hein. Madame Châtel, quels sont les programmes fédéraux qui pourraient aider la vallée de la Gatineau à se développer et comment allez-vous vous assurer que la région aille chercher chaque dollar à Ottawa qui lui revient?
Oui, quand j'ai commencé en 2021, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des programmes et il y avait des projets, mais les deux n'étaient pas liés. Donc, ensemble, ce qu'on a fait en communauté, on s'est rassemblé en communauté, puis on a réussi à créer l'an passé un programme de développement économique pour 8 MRC au Québec, dont 2 dans la circonscription, Pontiac et la vallée de la Gatineau. Et ça, c'est une initiative qui a déjà porté fruit parce qu'on voit beaucoup plus facilement des investissements, entre autres dans le secteur récréo-touristique. Donc, on a de l'infrastructure récréo-touristique et on a des projets. Donc ça, c'est une façon de vraiment amener les fonds fédéraux ici puis créer de l'emploi parce que l'abordabilité, ça commence par un bon emploi. Une autre chose aussi, l'allocation canadienne pour enfants a levé de la pauvreté 30 000 enfants ici dans notre région. Et donc ça, c'était un programme.
Ce sera tout le temps qu'on va avoir, Mme Châtel. Monsieur Wydeck, c'est à vous de terminer sur cette question des programmes fédéraux qui pourraient aider la vallée de la Gatineau et comment s'assurer qu'on aille chercher chaque dollar qui revient à la région à Ottawa.
Oui, pour moi, qu'est-ce qui est important en tant que député, si je suis élu, parce qu'on devient un représentant de la circonscription, on a des leaders qui ont des positions, mais moi, je vois que la personne qui représente la circonscription, on est là pour être la porte-parole, de pousser, d'aller chercher ces programmes-là. Parce que, oui, il y a beaucoup de programmes, mais on me dit toujours que ces programmes-là, souvent, sont beaucoup plus axés vers les grandes villes et puis que les MRC ont beaucoup de difficultés d'aller chercher leur part du gâteau qui est là. Alors, il faudrait revoir la façon que ces montants-là sont octroyés pour faire du développement économique comme le tourisme, récréo-tourisme et autre chose. Mais il faut revoir. La préfète me disait que c'est un grand défi pour elle pour aller chercher parce qu'on demande toujours un montant de base.
Ce sera tout le temps qu'on va avoir, M. Wydeck. Je vous remercie. On passe au quatrième thème, les Premières Nations. La circonscription de Pontiac-Kitigan-Zibi comprend 2 communautés autochtones Anishinaabe, entre 2008 et 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a documenté l'impact qu'a laissé le système des pensionnats pour autochtones au Canada sur les Premières Nations. La Commission avait lancé 94 appels à l'action pour favoriser la réconciliation entre Canadiens et peuples autochtones. Voici ma question. Quels sont les résultats locaux jusqu'à maintenant et quelles actions concrètes prendrez-vous dans la vallée de la Gatineau pour favoriser cette réconciliation? Monsieur Bertrand, la parole est à vous.
Au Parti vert, on aimerait penser qu'on contribue beaucoup à la population autochtone de la région, tout au moins avoir des idées pour pouvoir améliorer leur vie. Alors, en termes de gouvernance, le Parti vert pousse pour un conseil canadien de gouvernance qui inclut le fédéral, le provincial, le territorial, le municipal et les gouvernements autochtones. Donc, c'est la seule bonne façon de commencer à faire une discussion globale entre nous. Action spécifique, je reparle encore du revenu minimum garanti qu'on veut mettre en place. Le problème de logement est présent partout. C'est une chose qu'on peut, encore une fois, le programme de bâtir des logements est à notre avantage. On a aussi l'idée d'avoir des mini-centrales électriques, soit éoliennes ou solaires, sur les endroits qui sont très éloignés, au lieu d'avoir des génératrices au diesel. C'est une façon de minimiser les gaz de carbone et avoir de l'électricité sans...
Merci, M. Bertrand. Madame Sophie Châtel, c'est à vous la parole.
Merci. On a une communauté très, très, très dynamique en Kitiganzibi. Je suis très fière que notre gouvernement ait été un partenaire actif dans plusieurs projets structurants comme écoles, centres de santé, centres communautaires et culturels. Et on est en face ici du Centre d'amitié autochtone aussi qui dessert beaucoup d'Autochtones hors réserve auxquels on a été des partenaires. Je suis aussi très, très fière d'un projet qui m'a tenu à cœur. Parce qu'un des aînés, un jour, m'a dit que la réconciliation commence par prendre soin de notre nature qu'on partage. Et c'est ça qui a mis en œuvre, qu'on a lancé le projet Kijimaninan, qui est un projet, un des plus premiers du genre au Canada, où il place justement les Premières Nations au cœur des solutions pour faire face à la crise climatique et bâtir une économie verte régionale.
Merci, Mme Châtel. Monsieur Nolan, c'est à vous. Voulez-vous que je repose la question ou elle est suffisamment claire?
Tout commence par le respect et l'écoute. Alors, il faut être à l'écoute des Premières Nations. Il faut savoir c'est quoi leurs besoins. Sans leur imposer les besoins qu'Ottawa pense qui sont leurs besoins, il faut réellement être à l'écoute d'eux. Les Premières Nations, c'est une chose que j'ai réellement à cœur. Moi, j'ai deux filles qui sont dans la GRC, qui sont dans l'Ouest canadien. Les deux travaillent avec les Premières Nations. Et puis, ils me disent qu'est-ce qui se passe là-bas, qui est complètement différent d'ici, mais c'est très, très alarmant. Et puis, ça me tient réellement à cœur. Puis moi, je suis là pour faire un changement. Et puis, je veux être là, être à l'écoute du monde. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on regarde, le gouvernement fédéral, il y a des fonds qui sont disponibles pour les Premières Nations afin de les aider à construire des entreprises. Et puis ça, il faut réellement les rendre disponibles à tout le monde et travailler avec eux. C'est inacceptable qu'après 10 ans, lorsque les libéraux ont rentré au pouvoir, qu'ils ont dit qu'on mettrait de l'eau potable partout, puis on n'en a toujours pas à certains endroits. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument s'assurer que les services essentiels sont présents et être à l'écoute de la communauté, c'est aussi.
Merci, M. Nolan. M. Wydeck, c'est à vous.
Oui, une minute, très rapide. Un dossier très important pour moi. Comme j'ai été chef de la communauté, conseiller, j'ai passé toute ma vie au niveau de la communauté. Premièrement, quand on parle des 94 recommandations de l'enquête sur la vérité, la réconciliation, vous savez que seulement 15% de ces 94 recommandations-là ont été vraiment actionnées. Que la grande majorité, il n'y a eu rien qui a été fait ou très peu. Et aussi, il y a eu aussi l'enquête sur les femmes manquantes et tuées autochtones. Puis là, je vais parler de la région avec deux femmes, Maisie Ojek, Shannon Alexander. Ce rapport-là, il y a eu très peu de la part du gouvernement fédéral pour vraiment venir appuyer les femmes autochtones. Très peu. Des petits montants ici et là, mais on est toujours aux prises avec tout ça. Alors, on peut bien promettre beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de travail. Moi, je veux défendre. C'est une des causes importantes pour moi.
Merci. Merci, M. Wydeck. On est rendu à la portion véritablement du débat de cette émission spéciale où les candidats vont pouvoir s'interpeller directement entre eux. Alors, je rappelle les règles. Chaque candidat pourra poser deux questions au candidat de leur choix. La personne ciblée dispose d'une minute pour répondre. L'ordre de passage a été déterminé par tirage au sort. Alors, je vais vous demander de respecter le temps, mais vous êtes très bon jusqu'à présent, pour poser vos questions et répondre. Ne vous interrompez pas, s'il vous plaît. Faites preuve de courtoisie entre vous, afin que nos auditeurs puissent bien vous entendre. Et ce sera au candidat conservateur Brian Nolan de briser la glace. Monsieur Nolan, la parole est à vous. Vous pouvez poser votre première question. Vous avez 30 secondes.
D'accord. Alors, ma première question, c'est pour Mme Châtel. Vous parlez de développement économique, mais où sont les projets d'infrastructure importants ou qui ont créé réellement beaucoup d'emplois dans la Haute-Gatineau, sans compter le touristique?
Un des projets dont je suis très, très fière, on parlait beaucoup de construire plus de logements. Donc, un projet de 29 unités de logements qu'on a fait, qu'on a financé à Gracefield. Donc, ça s'appelle le projet au cœur du village. Et c'est non seulement du logement important, parce qu'on en a besoin, mais c'est aussi du logement abordable. Donc, contrairement au chef Pierre Poilievre, qui, au moment où il était ministre du logement, vous savez combien il a construit de logements abordables au Canada? Il en a construit que 6. Donc, nous, on construit beaucoup de logements abordables et c'est très important. Ça crée de la construction, des métiers aussi, avec, ça crée des bons emplois parce qu'on le sait, hein, on a besoin d'emplois. On a beaucoup de projets, évidemment. On parlait du secteur touristique, mais il y en a beaucoup, mais il y en a énormément en agriculture aussi. On finance des projets comme agriculture.
Alors, Mme Châtel, c'est tout le temps que vous aviez pour répondre, mais vous pouvez conserver la parole et à votre tour poser une question. Vous avez 30 secondes pour interpeller un candidat de votre choix.
Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un moment difficile où l'avenir de notre pays, notre souveraineté, elle est en jeu. Alors, c'est ma question pour Brian. Depuis qu'il a 21 ans, Pierre Poilievre est en politique. Il s'est acquis une réputation d'insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, y compris les mairesses et les maires du Québec, en les traitant d'incompétents. Et même ses propres collègues conservateurs, mais aussi nos journalistes. Alors, comment peut-il être un premier ministre qui va nous unir dans un temps où on a besoin d'être unis?
Merci.
Oui, bien, M. Poilievre, je suis d'accord avec toi qu'il était là, ça fait depuis l'âge de 21 ans, mais depuis les dernières années, il est en opposition. Puis son rôle, c'est de critiquer, ou en fin de compte, c'est de construire un meilleur Canada, surtout avec tout ce qu'on a vu, les dépenses inutiles et sur budget qui s'est passé depuis 10 ans, avec les libéraux qui imprimaient de l'argent à plus finir. Je pense que Pierre, il a appris, lui, il sait quoi faire. Puis c'est une personne qui a un plan. Et puis il y a un plan pour ramener de l'argent dans les poches des citoyens, construire des maisons, arrêter la criminalité. Comme vous savez, la criminalité, il y en a partout. Moi, j'ai fait traverser le Canada à maintes reprises. Il y a des sans-abri partout. Il y a des banques alimentaires partout. Puis ça, c'est un résultat du gouvernement libéral. Puis il faut que ça arrête. Il faut ramener un gros bon sens à Ottawa. Il faut contrôler nos budgets. Puis il faut également s'assurer qu'on a des emplois et puis qu'on est capable d'extraire notre ressource naturelle afin de pouvoir trouver d'autres marchés, afin de faire promouvoir notre pays.
Merci, M. Nolan. M. White Duck, c'est à vous. Vous pouvez poser une question. Vous avez 30 secondes.
Une question seulement.
Une première question. On fera une deuxième ronde plus tard. Vous aurez droit à une deuxième question. Mais je vous invite à poser votre première question à la personne de votre choix.
Ma première question, importante pour moi, à Mme Châtel, depuis des décennies que la communauté essaie d'avoir, s'assurer que tous les logements ont de l'eau potable. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de négocier, de voir si c'était possible, même récemment. Qu'est-ce qu'un gouvernement fédéral libéral est prêt à s'engager pour s'assurer que dans les prochaines deux années, que tous les logements de la communauté aient droit à de l'eau potable, qui est un droit, pas seulement qui devrait être reconnu, mais que ça se fasse sur le terrain?
Merci, M. Whitehack. Allez-y, Mme Châtel. Vous avez une minute pour répondre.
Oui, je suis 100% d'accord que chaque personne, chaque foyer doit avoir son eau potable. Je sais qu'il y a des conversations entre la communauté de Kitiganzibi et le département des affaires autochtones. Ils sont en train d'explorer un agrandissement parce qu'ils ont déjà ensemble construit une partie de l'aqueduc. Ils veulent l'agrandir pour aller connecter d'autres maison. Je comprends qu'il y a un enjeu de densité, c'est-à-dire que le système d'égout, si on veut l'agrandir pour des maisons où ils n'ont pas exactement la densité qui est prévue, mais à ce moment-là, ce sont des puits. Je comprends aussi qu'il y a un problème de confiance en les puits et l'eau, mais je comprends aussi que des évaluateurs de qualité d'eau sont allés et ont offert des options. Alors, il y a une
négociation. Ce sera tout, Mme Châtel. Je vous remercie. Ça fait déjà une minute. Monsieur Bertrand, c'est à vous. 30 secondes pour poser une question au candidat de votre choix.
Mme Châtel, lorsqu'il a pris sa retraite en 2025, Justin Trudeau a dit que après 9 ans et 130 jours en pouvoir, que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait la réforme électorale qu'il avait promise en 2019. Déjà, un projet de loi a été présenté par Bill Morris, Bill 86, pour une assemblée de citoyens pour faire des recommandations sur la réforme électorale.
Quelle est votre question, M. Bertrand?
Vous avez voté contre ce projet de loi. Pourquoi? Et qu'allez-vous faire pour pouvoir faire la réforme électorale?
Merci. À vous, Mme Châtel.
Dans la réforme électorale, je ne connais pas tout exactement les détails. Une chose qui est importante pour moi, qu'il faut retenir dans quelle que soit la réforme, c'est la représentation des députés. Alors, moi, depuis que je suis élue en 2021, un rôle qui est très important pour un député, c'est d'être la voix de sa communauté et être responsable de communiquer la voix de sa communauté au Parlement. Alors, si on a un système où on abandonne vraiment les députés locaux, alors ils sont plus redevables à leur population comme ils le sont dans notre système actuellement. Donc, moi, les gens, je dois aller les rencontrer. On est ici à Maniwaki, on fait un débat parce qu'on doit gagner la confiance des électeurs de Maniwaki, de la vallée et de notre grande circonscription. Et ça, il ne faut pas perdre ça.
Merci, Mme Châtel. On passe à la deuxième ronde de questions et on recommence avec vous, M. Nolan. Le sort vous est désigné pour reposer le premier la question. C'est 30 bon. Secondes à la personne de votre choix.
C'est bon. Mais Mme Châtel, vous êtes sur le siège chaud, donc on va continuer. On vous tient occupé. Moi, je voudrais savoir, ça revient un petit peu à votre question de tantôt, pourquoi vous supportez M. Carney quand, lorsqu'il était élu chef, la première énoncée qu'il a faite, il nous a menti lorsqu'il a donné sa démission à Brookfield. Il ne nous a pas donné la vraie date de démission. Alors, il a participé au transfert de la compagnie.
Posez votre question, M. Nolan.
À New York. Et puis, également, il sert des échappatoires fiscaux afin de ne pas payer de taxes. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous soutenez quelqu'un qui nous ment, qui est supposé être honnête selon vous.
Ce sera tout, M. Nolan. Allez-y, Mme Châtel.
Oui, mais tu sais, vous savez, le genre de politique des conservateurs, c'est vraiment de mettre des noms, de blâmer, d'insulter les gens. C'est pas comme ça. Il n'a pas. Mark Carney, c'est quelqu'un d'une intégrité extraordinaire. J'ai travaillé, je suis fiscaliste. Donc, je comprends bien le système fiscal. Et M. Carney, la compagnie qu'il représentait aussi, paye sa juste part d'impôts. Une chose très importante avec laquelle je travaille avec Mark Carney, c'est s'assurer que toutes les compagnies dans le monde payent leur juste part d'impôts, y compris les géants du web. J'ai travaillé avec ça et on a mis en place un dossier très important, un impôt minimum de 15 % sur toutes les compagnies multinationales. Donc, peu importe où ils vont mettre leur argent, que ce soit aux Bermudes, aux îles Caïmans, toutes les compagnies vont payer au minimum 15 % d'impôts.
Merci. Merci. Monsieur Wydeck, c'est à vous de poser votre deuxième question de la soirée. Vous avez 30 secondes pour le faire.
Bien, peut-être à Monsieur Nolan, vraiment pour mieux comprendre la position du Parti conservateur et du leader quand on parle des pensionnats. Est-ce que vous, en tant que représentant du Parti conservateur dans le comté dans lequel on est, est-ce que vous croyez que les pensionnats ont fait le dommage qu'ils ont fait? Qu'il y a eu des décès, des personnes qui ont été tuées, que les survivants, leur histoire sont vraies,
Ce sera tout, M. Wydeck.
M. Wydeck, je suis entièrement d'accord avec vous. Les pensionnats y ont existé. Ce qui a été fait là, c'était pas juste. Il y a des personnes qui sont décédées. Puis moi, je sympathise avec la cause. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est dans une époque que moi, j'étais pas là. Mais même si ça a été... Ça a fini dans les années 80, si ma mémoire est bonne, là. Mais je suis sympathisant à la cause. Puis je vais faire tout ce que je peux pour aider les Premières Nations. Parce que je trouve ça que c'est inconcevable. Et puis, je suis très désolé de ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire, moi, personnellement, je ne peux pas rien faire, mais je vais tout faire pour aider les Premières Nations afin de passer à travers ces étapes.
Merci, M. Nolan. M. Bertrand, c'est à vous.
Mme Châtel, bonjour. Il y avait 39 libéraux, 3 conservateurs, tous les députés NPD et tous les députés verts avaient voté en faveur de la réforme électorale que j'aime tant. Vous avez voté contre. L'Allemagne, les grands partis, toute l'Europe en général, excepté le UK, le Royaume-Uni, tout le monde utilise le système de représentation proportionnelle. Je ne préconise pas un système en particulier, mais avoir une assemblée de citoyens qui travaillent...
Quelle est votre question, monsieur Bertrand?
Pourquoi allez-vous proposer maintenant supporter l'Assemblée de citoyens?
Dans toute réforme électorale, Claude, je pense que ce qui est important, que je ne veux pas qu'on perde... c'est d'être redevable envers nos populations avec les régions qu'on représente. Comme ici, par exemple, on représente la vallée de la Gatineau, mais on a 41 municipalités. Hein, Pontiac, c'est plus grand que la Belgique, hein? Il y a avec 41 municipalités. Mais il ne faut pas perdre cette représentativité-là. Et le fait que nous demandons ici aujourd'hui aux gens de Pontiac-Kitigan-Zibi de nous faire confiance en nous personnellement. Et ensuite, une fois élus comme députés, on va au Parlement et on représente notre communauté. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Ceci étant dit, je suis d'accord que les plus petits partis devraient trouver une manière, dans une réforme électorale, d'avoir une plus grande place. Mais il ne faut pas perdre... cette grande démocratie-là de représenter nos citoyens.
Merci, Mme Châtel. Ce sera tout, M. Bertrand. Mais Mme Châtel, vous allez conclure en vous aussi. Vous pouvez poser aussi une question, 30 secondes pour le faire, au candidat de votre choix.
Oui, merci. La culture française, québécoise est très importante et est en péril. Pierre Poilievre a promis d'abolir Radio-Canada anglais, qu'on appelle CBC. Radio-Canada français partage toutes leurs installations, leurs studios, leurs budgets, leurs journalistes et leur programmation avec Radio-Canada anglais.
Quelle est votre question et à qui s'adresse-t-il?
Comment M. Nolan pourra empêcher Poilievre de mettre l'arrêt de mort sur Radio-Canada?
Merci, Mme Châtel. Monsieur Nolan, à vous.
Premièrement, Radio-Canada en français va toujours exister parce qu'il faut protéger la langue française à travers le Canada. Que tu sois à Vancouver, à Calgary ou à Edmonton ou dans l'Est canadien, il faut s'assurer qu'on a une Radio-Canada est présent afin que nos francophones à travers le Canada puissent avoir des nouvelles et des émissions qui sont produites soit localement ou à Ottawa. Peu importe où, mais ça faut s'assurer d'une présence francophone à travers le Canada. Pour ce qui est de CBC, CBC pourrait être privatisé, comme ils font aux États-Unis. Ils font leurs propres revenus à même de la publicité qu'ils font ou des programmes qu'ils font. Et puis, ça ne devrait pas être subventionné par le gouvernement fédéral à la coût de 1,5 ou 1,2 milliard. Là. Il y a eu un autre dépôt qui a été fait récemment. 1,2 milliard par année. Qui nous coûte, nous, Canadiens? Et en plus de ça, les personnes qui dirigent CBC, ils ont des bonus qui viennent aussi de nos poches. Alors, c'est irréaliste. Il faut que ça soit privatisé.
Merci, M. Nolan. Alors, la portion débat de cette émission spéciale est terminée. On va vous laisser maintenant 2 minutes chacun votre tour pour vous adresser directement à nos auditeurs. Et c'est au candidat conservateur Brian Nolan d'entamer ce 2 minutes de conclusion. À vous.
Alors, Brian Nolan, candidat du Parti conservateur, moi, je vais être une voix forte. Comme plusieurs personnes dans la circonscription, ça fait 4 mois que je me promène, je rencontre presque tout le monde. J'ai rencontré plus de 3000 personnes à date. Je sais qu'on a une grande circonscription. Moi, je suis là pour être votre voix. Je vais être là pour vous parler. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Lorsque je vais être élu, comme j'ai mentionné à bien des personnes, je vais me présenter dans chaque municipalité de la circonscription afin d'avoir un meeting avec les citoyens des municipalités, afin qu'on puisse échanger pour que vous puissiez me dire qu'est-ce qui va pas, puis qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce que votre municipalité a besoin, afin d'avoir une meilleure idée sur l'ensemble de la circonscription, parce qu'on a une grande circonscription, et puis c'est important d'être au contact avec la population. Alors, ça nous prend un changement, ça nous prend un gouvernement qui a un plan, puis des actions, puis aussi qui veut faire la promotion et aussi aider le pays à croître énormément. Après 10 ans d'un gouvernement libéral et avec une coalition NDP, on a vu qu'on a eu un retard. Les investissements se faisaient pas, beaucoup de dépenses. On a eu 62 milliards de déficit en un an, qui est inacceptable. Et puis là, on a M. Carney qui se présente, qui nous ment, tout de suite en partant. C'est une personne qui sert des échappatoires fiscales pour pas payer d'impôts. Et puis, il déménage son siège social à New York. Ça, c'est une autre chose quand il était au Canada avant. Alors, c'est pas une personne qui est là pour représenter le Canada. Si on se base sur les deux premiers ministres de l'Angleterre, ils nous ont dit que c'était la pire gaffe qu'ils ont faite. Là, ils ont créé de l'inflation en Angleterre. Et puis, ça serait à refaire, ils le refaient pas. Et pourquoi qu'on voterait pour une personne comme ça? Alors, comme Parti conservateur, nous, on veut mettre des projets en place, on veut construire une pipeline, on veut arrêter les crimes, on veut construire des maisons, créer une économie, enlever les barrières interprovinciales, et puis avoir une prospérité canadienne afin qu'on puisse vivre confortablement, être capable de sauver de l'argent avec notre famille et puis de profiter de la vie, comme le Canada qu'on avait auparavant.
Monsieur White Duck, c'est à vous. Vous avez 2 minutes en conclusion.
Oui, Miigwech, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté ce soir. Moi, Gilbert White Duck de la communauté de Kitiganzebi, je me présente parce que je crois que j'apporte, comme j'ai mentionné au début, une approche qui peut être différente. Je reconnais que notre parti ne va pas former le gouvernement. Je crois que je peux être, avec d'autres personnes, la conscience des députés qui vont être élus et le gouvernement. Je suis une personne qui veut représenter la circonscription et les citoyens, non pas nécessairement toujours être le porte-parole du parti. Je peux être en désaccord, puis je vais le dire. Je crois beaucoup dans l'honnêteté, l'ouverture, l'écoute. Et moi aussi, c'est important d'être en contact avec les citoyens. Et puis, si élu, une chose que je peux promettre, c'est dans les 6 premiers mois, justement, d'avoir des rencontres dans toutes les régions. Et puis, que ce soit des groupes, des municipalités, des maires, des MRC, d'aller chercher vraiment, qu'est-ce qu'eux autres cherchent? Quels sont les projets qu'on peut travailler ensemble et non pas imposer de la part du fédéral et de l'apporter à la Chambre des communes et d'être le porte-parole souvent pour les personnes qui n'ont souvent pas la chance de partager des choses, d'être ce porte-parole-là d'une façon civile. Je respecte tous les partis. Je ne suis pas toujours en accord. Mais c'est de pouvoir travailler pour améliorer notre région ici, de la Haute-Gatineau. Et en fin de compte, d'améliorer la situation dans tout le comté. Alors, il faut qu'on travaille ensemble, que ce soit dans la Chambre des communes ou à l'extérieur. Et puis, même si on n'est pas élu, il faut qu'on continue de travailler ensemble. Miigwech.
Merci. Miigwech, M. White Duck. Mme Châtel, c'est à vous. 2 minutes pour conclure.
Merci tout d'abord à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir pour cet exercice très important. Les enjeux actuels n'ont jamais été aussi importants. On vit un moment charnière dans l'histoire du Canada et jamais notre pays a été confronté à des menaces aussi sérieuses pour son économie et pour sa souveraineté avec le président Trump. Mais on est maître chez nous. Et le choix dans cette élection est très important. Ce n'est pas seulement une décision qu'on prend, mais un choix qui déterminera l'avenir de notre économie et de notre pays tout entier. On peut choisir Mark Carney, un leader d'expérience, avec un calme et une compétence inégalée, un résumé impressionnant en économie. Il a été gouverneur de la Banque du Canada dans des périodes de crise et la Banque de l'Angleterre dans des périodes de crise économique. Et même l'ancien premier ministre Stephen Harper voulait en faire son ministre des Finances. Il est capable de gérer habilement cette crise économique déclenchée par Trump et de positionner le Canada comme l'une des économies les plus fortes du G7, où on peut prendre un risque et faire élire un gouvernement polièvre. Un politicien de carrière, sans expérience économique, qui adopte une approche à la style américaine de politique, à la MAGA, dont le réflexe est de couper, couper et couper dans les services dont les gens de la vallée ont besoin maintenant plus que jamais. Votre voix, votre vote déterminera non seulement l'avenir de notre communauté, mais aussi celle de notre pays. Ensemble, sois un leader qui saura nous unir, nous allons gagner.
Merci Madame Châtel. Et Monsieur Bertrand, pour le mot de la fin, 2 minutes aussi également.
Durant cette heure très agréable que nous avons eue ensemble aujourd'hui, on n'a pas eu une question, c'est pas une critique, là. C'est pas une question au sujet du climat, du réchauffement climatique, au sujet de taxe carbone qui est partie, au sujet des réductions des gaz à effet de serre. On n'a pas touché à ça. C'est toujours le Parti vert qui est le seul, une fois que l'élection est finie, là, tout le monde oublie l'environnement. Le Parti vert est toujours le seul à rappeler cette chose-là sur la sellette. Les sondages montrent que les libéraux vont probablement avoir une majorité, sinon proche d'une majorité. Alors, vous pouvez vous permettre de voter pour un des petits partis, parce qu'il faut que les petits partis soient en présence au Parlement. Alors, le candidat du Parti vert, j'ai entendu dire, est très prêt à recueillir votre vote et vous représenter pour le Pontiac. Je suis prêt à y aller. Je demeure quelques minutes du centre de la colline parlementaire. Alors, mon nom est Claude Bertrand. Ça, c'était mon plaisir de vous parler, puis j'espère bien que vous allez voter pour moi.
Merci, M. Bertrand. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale sur les élections fédérales 2025. Merci aux candidats d'avoir participé à notre débat. Je vous félicite pour votre courtoisie, votre respect. C'était effectivement très agréable. Nous avions aujourd'hui avec nous la députée sortante de Pontiac, Kitigan Zibi, et candidate pour le Parti libéral du Canada, Sophie Châtel, le candidat du Parti conservateur du Canada, Brian Nolan, le candidat pour le nouveau Parti démocratique, Gilbert Wyduck, ainsi que le candidat pour le Parti vert du Canada, Claude Bertrand. Vous pouvez retrouver sur notre site internet nos entrevues avec chacun des candidats aux élections fédérales dans la circonscription de Pontiac-Tiganzibi. Le débat d'aujourd'hui sera aussi disponible sur notre site internet. En plus des 4 candidats présents ce soir, vous retrouverez aussi sur vos bulletins de vote les noms de Suzanne Proulx, candidate du Bloc québécois, et Todd Hoffman, candidat du Parti populaire du Canada. Le vote par anticipation a lieu du vendredi 18 avril au lundi 21 avril de 9h à 21h. Le scrutin se déroulera le 28 avril prochain de 9h30 à 21h30. Je vous invite à aller voter en grand nombre. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et bonne chance aux candidats.
Merci beaucoup.
Merci. Très plaisant.